Bonjour, bonjour à tous, mesdames et messieurs, et surtout merci de rester fidèles à l'écoute de votre émission hebdomadaire, C'est nécessaire la UDE. Émission, vous le savez déjà, à caractère pédagogique sur le fonctionnement de la sécurité sociale au Gabon. La sécurité sociale qui est un instrument de solidarité, facteur de stabilité sociale, de lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Cela dit, dans ce 17e numéro, il sera question de définir la différence qu'il y a entre allocation de vieillesse et pension vieillesse. Il s'agit là de deux choses bien différentes dans les prestations de la CNSS à ne pas confondre. Et c'est pourquoi, pour nous accompagner et nous aider à comprendre le traitement de ces deux prestations, nous avons dans ce studio une personne ressource. Il s'agit de Monsieur Martin Hans Francis. Hans Francis, bonjour.
Bonjour Monsieur Koumba.
Alors peut-être d'abord nous décliner votre spécialité. Quel rôle vous jouez dans le département dont vous avez la charge à la CNSS?
Oui, je suis binôme du processus traiter les pensions à la CNSS. Donc il s'agit de l'organisation générale, donc de l'entrée jusqu'au traitement final des pensions. Donc je suis responsable adjoint de ce processus. Et d'autre part, je suis aussi chef de service enquête sociale.
Voilà. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que si vous voulez prendre part à cette émission, appelez au 07 73 25 00. Je répète, 07 73 25 00. Voilà, cela dit, vous êtes donc bien placé, Monsieur Mata, pour nous dire, selon notre thématique du jour, quelle différence il y a entre allocation vieillesse et pension vieillesse. Et c'est notre première question.
D'accord. Bon, de manière générale et pour rappel, la pension de retraite est une prestation sociale servie par la CNSS et s'est versée à tout travailleur qui a cessé son activité. Donc, parmi ces pensions de retraite, il y a l'allocation de vieillesse et la pension de vieillesse. Donc, la pension de vieillesse est un revenu permanent. Donc, il est versé tous les 3 mois à l'assuré qui en a fait la demande et qui remplit les conditions énumérées par le Code de sécurité sociale, notamment la condition d'âge. Donc, avoir 55 ans, avoir cessé l'activité salariée, répondre à la condition d'assurance, donc 120 mois d'assurance au cours des 20 dernières années précédant l'âge d'admission à la retraite et être immatriculé à la CNSS depuis au moins 20 ans. Maintenant, l'allocation de vieillesse, elle, c'est un paiement unique, c'est-à-dire que l'assuré n'a pas rempli ou la condition d'immatriculation de 20 ans ou alors la condition des mois d'assurance.
Alors, donc, si on comprend bien, allocation vieillesse égale paiement unique et pension vieillesse égale paiement régulier.
C'est bien cela.
Alors, qui finalement est affilié au régime CNSS doit bénéficier de l'une ou de l'autre prestation?
Oui, dès lors que vous avez cessé votre activité salariée, que vous avez l'âge, vous bénéficierez ou de la pension ou de l'allocation.
Ok, c'est ce que vous venez d'expliquer tout à l'heure. Alors, quelles sont les conditions légales pour prétendre avoir une prestation à la CNSS?
Prestation de vieillesse, il faut le préciser.
Bien sûr.
Donc, je rappelle en fait, donc c'est la condition d'âge, donc de 55 ans, et avec la nouvelle loi qui est sortie sur la pénibilité au travail, donc qui peut être repoussée jusqu'à environ 65 ans. Ensuite, la condition d'immatriculation à la CNSS depuis au moins 20 ans. Aussi, les conditions de mois d'assurance, donc avoir exercé 120 mois au cours des 20 dernières années précédant la date à laquelle vous allez être admis à la retraite. Et enfin, avoir cessé votre activité. Sinon, vous ne pourrez pas prétendre à une pension de vieillesse.
Alors, est-ce que ces dispositions d'âge sont retenues dans le code de sécurité sociale?
Oui, la condition d'âge retenue dans le code de sécurité sociale, du moins celui...
Propos des 60 ans.
Des 60 ans, oui. Le code avait déjà prévu une extension, en fait. Donc, si le besoin était, l'âge de la retraite pouvait être repoussé jusqu'à 60 ans.
Alors, la problématique ici est beaucoup plus tournée vers ceux qui font dans l'allocation vieillesse. Ça veut dire qu'ils ne bénéficient pas totalement de leur pension.
Donc, pour ceux qui ne bénéficient pas de leur pension, c'est généralement parce qu'ils n'ont peut-être pas rempli la condition des 120 mois d'assurance. Donc, à ce moment, on ne peut pas déterminer lors de la demande si vous allez bénéficier ou de la pension ou de l'allocation. Donc, c'est seulement lorsque l'on va calculer votre droit à la pension vieillesse que nous saurons si vous êtes bénéficiaire d'une pension ou d'une allocation.
Finalement, quels sont les facteurs de risque qui exposent certains à bénéficier de l'allocation?
Bon, le souhait, c'est que tout le monde puisse avoir la pension de vieillesse. Néanmoins, bon, certaines catégories de personnes, donc celles qui ont travaillé très jeunes et qui sont parties à leur sens en retraite anticipée en pensant qu'ils auraient eu la pension. Donc si vous avez commencé votre travail par exemple à 17 ou 18 ans, donc au bout de 30 années de travail, ce qui est déjà assez énorme, vous partez à moins de 50 ans et vous pouvez peut-être ne pas remplir les conditions des 120 mois d'assurance au cours des 20 dernières années. À ce moment-là, vous aurez une allocation. D'autre part aussi, il y a des personnes qui involontairement ont été mises en cessation d'activité, donc pour motif d'ordre économique. Donc les entreprises ont fermé, se sont retrouvées au chômage, si on peut dire ainsi. Et puis bon, au moment de l'âge d'admission à la retraite, ils font une demande et puis se retrouvent avec une allocation de VS. Il y a aussi les personnes qui changent assez régulièrement d'entreprise. Et puis, pendant les périodes d'interruption d'activité salariée, elles peuvent être plus ou moins longues en fait. Donc vous pouvez travailler en discontinu, mais si vos périodes sont trop longues, effectivement, vous ne pourrez peut-être pas remplir la condition des 120 mois d'assurance.
Alors pour ces personnes justement qui sont victimes, au-delà de leur volonté, vous avez parlé des entreprises qui ferment. Est-ce que ces personnes ne peuvent pas bénéficier de quelques circonstances atténuantes au sein de la CNSS? Est-ce qu'il y a des dispositions à ce niveau?
Des dispositions à ce niveau, toute décision prise par la CNSS peut être contestée. Mais à ce moment-là, c'est une analyse qui est faite. Et puis, c'est la CNSS qui décidera en dernier ressort. Mais si vous ne répondez pas aux conditions légales, il est souvent difficile de faire une entrave à la loi.
Est-ce que ces cas sont nombreux dans vos services? Est-ce que vous enregistrez de très nombreux cas de paiement unique?
De très nombreux cas. Comme je vous le disais précédemment, c'est au moment du calcul. Donc, il arrive que lors du calcul, on est déterminé une première fois que vous ayez droit à l'allocation. Mais les différents niveaux de contrôle que nous avons mis en place peuvent demander un réexamen du calcul qui a d'abord été effectué initialement. Donc, mais sinon, en général, en règle générale, nous avons plus de pensions que d'allocations de VIS.
Justement, est-ce que à ce niveau-là, vous n'enregistrez pas souvent des mécontents ou des réactions négatives de la part de certains usagers qui seraient un tant soit peu surpris par à cette décision d'avoir un paiement unique?
Vous savez, dès lors que nous sommes clients quelque part, nous sommes souvent étonnés du résultat. Donc, il y a bien sûr des mécontents. Souvent, c'est parce que ils ne se sont pas rapprochés aussi de la CNSS. Donc, nous avons aussi un rôle de conseil et beaucoup, en fait, estiment sur la base de calculs, je dirais, erronés, c'est-à-dire qu'ils font des calculs eux-mêmes. Ils estiment qu'ils ont droit à tel ou tel montant de pension. Ils ont droit pour eux, après avoir rempli la condition d'immatriculation, à la pension. Et lorsqu'ils ont cultivé ça en eux, ils sont étonnés lorsque les professionnels de la sécurité sociale en fait leur donnent le résultat définitif. On enregistre effectivement des réclamations dans ce sens, mais dès lors que vous expliquez correctement à l'usager en face de vous ce qu'il en est, bon, il se trouve un peu déçu parce qu'il aurait aimé que, effectivement, comme dans le cas de cette émission, on lui dise exactement ce qu'il a à faire.
Effectivement, il y a souvent un manque d'informations à ce niveau.
Tout à fait.
Alors, à quel moment un usager, un peu dans ce cas de figure, peut-il bénéficier d'un recours gracieux?
Dès lors que la caisse vous notifiera, de toute façon, quel type de prestation vous pouvez prétendre. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord avec l'allocation de VS que l'on va vous servir, effectivement, la saisine du recours gracieux, de la commission de recours gracieux de la CNSS, vous est ouverte. Donc, vous écrivez en fait à la commission de recours gracieux qui, elle, examinera les différents motifs pour lesquels, en fait, vous n'avez pas pu prétendre en fait à une pension vieillesse.
Il y en a qui bénéficient quand même de quelques circonstances atténuantes de la part de l'élection générale.
Bon, maintenant, je n'ai pas les derniers résultats de la commission de recours gracieux.
Il y a beaucoup de gens qui font un peu dans l'amalgame, c'est-à-dire une mauvaise interprétation de cette question d'obtention d'une pension. Peut-être qu'il faut encore appeler. Est-ce qu'il faut remplir seulement les 20 ans pour prétendre à avoir une pension?
Les 20 ans, ce sont des 20 ans d'immatriculation, au moins. Donc, par exemple, si vous avez commencé votre travail à 35 ans, vous l'achevez à 55 ans, vous avez répondu à la condition de 20 ans d'immatriculation à la CNSS. Maintenant, entre les 35 et les 55 ans, bon, c'est à titre indicatif, hein. Après, les calculs peuvent démontrer autre chose. Maintenant, entre 35 et 55 ans, il faut au moins avoir travaillé 10 années pleines pour prétendre à la pension.
Parce qu'il y en a qui pensent tout simplement qu'il suffit de travailler pour obtenir une pension.
Ce serait l'idéal s'il suffisait juste de travailler pour obtenir la pension.
Alors, quelles sont les conditions d'âge je crois que si vous pouvez nous rappeler ça pour obtenir la pension.
Voilà, les conditions d'âge, en fait, depuis que le décret justement sur le report de l'âge à la retraite a été pris. Donc maintenant, c'est à partir de 55 ans et jusqu'à 65 ans, suivant le secteur d'activité dans lequel vous êtes.
Et justement, quand on parle de secteur d'activité, 60 ans, on risque d'aller au boulot avec le même bâton, non?
C'est justement, en fait, il y a différentes catégories de professionnels. Donc c'est vrai que les manutentionnaires ou les exécutants ne partiront peut-être pas au même moment que les cadres dirigeants.
Surtout que dans nos milieux, il y a beaucoup des gens qui font dans la triche, qui modifient leur âge.
Oui, bon, beaucoup modifient, c'est pour des raisons personnelles, je crois. Bon, après, l'âge finit par nous rattraper. Absolument. Et puis à ce moment-là, on demande effectivement à vouloir aller en pension.
Retraite anticipée.
Non, là, on demande à vouloir aller parce que l'âge nous a bien saisi.
Voilà.
On veut vraiment aller à la retraite. Mais malheureusement, quand vous vous êtes fait enregistrer avec un âge chez nous, vous êtes tenu par la loi, en fait, d'aller à l'âge officiellement déclaré.
Alors, Monsieur Mata, parlez-nous un peu maintenant de la manière dont vos services procèdent au calcul de l'allocation vieillesse. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques détails?
Oui, je vais vous en donner. Bon, c'est quand même assez technique, donc si les auditeurs ont un stylo, c'est vraiment un titre indicatif pour qu'ils puissent noter.
Oui, il y a quand même des techniciens dans le public.
Donc voilà, pour l'allocation de vieillesse, donc il faut prendre le salaire moyen que nous allons diviser par 2 et multiplier par le nombre de semestres d'activité. Donc par exemple, vous gagnez 300 000 francs par mois, donc ça va être votre salaire moyen en fin d'activité. Vous avez travaillé 12 mois, c'est pour faire des calculs assez simples.
300 000 francs, c'est le salaire de base ou bien?
Non, salaire moyen, c'est
moyen, d'accord, okay.
Voilà, salaire soumis à cotisation et puis déclaré par votre employeur. Donc maintenant, ce salaire-là, on va le diviser par 2, ça va vous faire 150 000. Maintenant, le nombre de semestres d'activité, pour faire assez simple, on va dire que vous avez travaillé 12 mois. Donc on va diviser par 6, on obtiendra 2. Donc vous avez travaillé 2 semestres d'activité. Et maintenant, on va multiplier ces 150 000-là par les 2 semestres d'activité. Donc, en paiement unique, vous allez recevoir 300 000 francs.
Maintenant, pour ceux qui bénéficient des pensions vieillesse et qui sont payés régulièrement, c'est après combien de mois?
C'est payé tous les 3 mois. Donc maintenant, pour la pension vieillesse, le calcul, c'est toujours le salaire moyen que l'on prendra en compte. Donc, toujours les 300 000 que l'on va multiplier par 40%. Donc, par hypothèse, je ne prends pas les cas éventuels de majoration. Donc, c'est juste pour que nos auditeurs puissent comprendre, donc par 40%, et qu'on va multiplier par 3, en fait, qui vont correspondre à les 3 mois du trimestre. Maintenant, les 300 000 multipliés par 40%, ça nous fait 120 000. Donc, vous avez 120 000 de pension mensuelle que l'on multipliera par 3 pour avoir le montant trimestriel. Donc, ça va vous faire 360 000 par trimestre.
Pour la pension VS.
Pour la pension VS.
Est-ce qu'il y a des retraités qui sont payés tous les mois, comme dans le secteur public? Peut-être à titre exceptionnel.
Non. Tous les bénéficiaires de prestations sociales à la CNSS sont payés en fait tous les 3 mois.
Et pourquoi cette disposition au niveau de la sécurité sociale?
Le code a prévu d'ailleurs que les prestations de la CNSS soient payées à terme échu, ne dépassant pas 3 mois. Donc la CNSS a choisi pour chacun des mois de l'année de payer une prestation, les unes après les autres. Normalement pour les pensions par exemple, on paye le 5 février, le 5 mai, le 5 août et le 5 novembre de chaque année.
Vous n'avez jamais des âgés qui boudent cette disposition?
Bon, tout le monde, comme c'est un revenu de substitution, tout le monde aimerait bien le recevoir en fin de chaque mois.
Parce qu'il y a quand même des charges chaque mois.
Oui, il y a des charges, mais c'est, comme je viens de le dire, c'est un revenu de substitution. Il n'est pas censé nous aider à accomplir de très très grandes choses au moment où nous avons cessé l'activité salariée.
Alors, quelle est la principale difficulté que vous rencontrez dans votre service?
La principale difficulté, c'est l'application surtout de la loi et la difficulté peut-être de vouloir aider les demandeurs à obtenir une pension VS, parce qu'on connaît quand même les réalités locales et c'est vrai que pour certains qui ont travaillé longtemps, il serait bien qu'ils bénéficient d'une pension de VS. Après avoir procédé au calcul, ben, si nous estimons qu'il y a des choses peut-être qu'il faudrait approfondir ou autre, malheureusement là-dessus on fait attendre notre usager. Donc après on soumet à nos hiérarchies respectives pour que des décisions soient prises.
Comment est-ce que vous faites pour entrer en contact avec l'usager?
Sur les demandes, donc les imprimés délivrés par la caisse, il y a la ligne en fait où il y a l'adresse et nous demandons justement à ces travailleurs en cessation d'activité de bien vouloir mettre d'un numéro de téléphone afin que, au cas où il y ait des avancées ou certains blocages justement liés au calcul de leurs prestations, nous puissions les joindre en fait afin de les tenir informés. Sinon, après, autre part, ils peuvent se présenter au guichet de la CNSS qui eux aussi leur donneront l'information.
Alors, comment se présente le volume de travail chez vous? On sait que la CNSS aujourd'hui est certifiée. Qu'est-ce que cette certification a apporté à votre service en plus?
En plus, bon, déjà, ça a beaucoup amélioré les délais de traitement. Ça a amélioré aussi la connaissance du public envers la CNSS. Parce qu'autrefois, c'était, on va dire, un peu opaque. Il se disait juste qu'on attend le moment de la retraite pour pouvoir bénéficier de la pension. Mais aujourd'hui, ils se sont rendus compte que la CNSS propose d'autres prestations. Et la CNSS a surtout envers eux un rôle de conseil. Donc, ils peuvent se rapprocher de nos services pour demander ce qu'ils veulent. Et on leur dira effectivement que voilà ce à quoi vous pouvez prétendre, voilà ce que vous ne pouvez pas avoir. Et ils partent de là, c'est satisfait.
Alors, ils ont souvent manifesté ce satisfait, les usagers, auprès de vos services?
Nous sommes un service en fait en back-office. Donc là, normalement, c'est le service qui est évalué assez régulièrement là-dessus, c'est le front-office. Donc pour savoir justement si nos usagers sont satisfaits des services que nous leur proposons.
Alors, quel serait l'idéal selon vous, hein, vous avez longtemps travaillé dans ce service, faire en sorte que tout le monde puisse bénéficier d'une pension en vieillesse? Quelles sont les dispositions qu'on pourrait prendre pour éviter d'avoir ce qu'on appelle des allocations?
Bon, tout d'abord, c'est à l'endroit des employeurs. C'est parce que ce sont les employeurs qui gèrent nos carrières. Donc, c'est surtout destiné à eux. C'est à eux de faire en sorte qu'ils aient un autre regard sur la carrière de leurs employés, parce que quelques omissions, parce qu'on a du retard ou alors on ne va pas déclarer les choses à temps, peuvent coûter en fait la pension de vieillesse à quelqu'un. Il est parti en stage, vous avez oublié de faire valider les périodes où il était parti en stage et tout le reste. Donc à la fin, lors de du calcul final, ces périodes vont lui manquer. Donc en fait, c'est aux employeurs surtout de faire cet effort. Maintenant, d'autre part, parce qu'il n'y a pas toujours un seul responsable. D'autre part, l'assuré aussi a la possibilité de se rapprocher de la CNSS pour avoir un suivi de son compte individuel. Donc lui aussi doit faire cet effort de venir et de demander.
On constate quand même qu'il y a des entrepreneurs véreux qui ne s'occupent pas trop l'avenir de leurs employés. Est-ce que au sein de la CNSS, vous n'avez pas tenté de mettre en place un programme de sensibilisation auprès de ces entreprises?
Si, tout récemment, des programmes ont été menés, notamment à Port-Gentil. Ils étaient allés, en fait, justement, rencontrer les employeurs, leur parler de leurs obligations envers les travailleurs. Mmh. Et il y a eu un résultat positif derrière.
Qu'est-ce qui s'est fait voir?
Là, de toute façon, je crois que c'est de l'ordre du recouvrement. Voilà, donc je crois que là, il faudrait vous rapprocher du recouvrement qui vous donnera en fait de plus amples explications. Moi, je sais juste qu'ils se sont rendus à Port-Gentil pour avoir un contact direct avec les employeurs. Et ça s'est bien passé parce que, si je peux me permettre, l'Union en a fait l'écho.
Mesdames et messieurs, je vous rappelle que si vous voulez prendre part à cette émission, appelez au 07 73 25 00. Vos questions seront enregistrées. Nous allons dans quelques instants tourner la page de notre émission pour la rubrique La question de l'auditeur.
La question de l'auditeur.
La question de l'auditeur.
Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes là en plein dans notre deuxième partie, La question de l'auditeur. Là, nous avons quelques questions de la part de quelques auditeurs qui ont réagi. Commençons par cette question de Monsieur Nestor Ecobier qui appelle de Libreville. Il veut savoir pourquoi les retraités du secteur public sont payés par mois alors qu'à la CNSS on paye par trimestre. Je crois qu'on avait déjà débattu la question, mais vous pouvez répéter. Hein.
Oui, c'est-à-dire que la CNSS, ils ont une disposition légale qui les protège en fait et qui leur permet de payer les prestations sociales tous les 3 mois. Maintenant, ce qu'il en est au sein de la fonction publique, je ne peux pas me prononcer là-dessus.
Voilà, je pense que M. Ecomier est édifié. Nous poursuivons avec la deuxième question, celle de Mme Ibinga, qui appelle Duntum. Elle veut savoir si elle a les chances de toucher la pension parce qu'elle a changé, dit-elle, de secteur d'activité. Et là, elle n'a pas précisé si elle est partie du public au privé ou du privé au public.
D'accord, donc nous allons présumer que Elle est partie du secteur public vers le privé ou alors du secteur privé vers le public. Maintenant, la législation...
Est-ce que c'est valable pour les deux cas?
Non, dans les deux cas, c'est valable. Mmh. Maintenant, la législation actuelle permet justement à quelqu'un qui travaillerait et dans le public et dans le privé, même en alternance hein, toute sa vie, soit pris en charge par le dernier régime. C'est-à-dire que le régime où vous allez atteindre l'âge de mise à la retraite, c'est ce régime qui va devoir liquider ou calculer vos droits à la pension de vieillesse.
Est-ce qu'on va tenir compte du temps que vous avez passé dans l'autre administration?
Voilà, maintenant l'autre organisme dans lequel vous avez exercé va vous délivrer une attestation de validation de période d'assurance qui prendra en compte toutes les périodes que vous avez exercées ailleurs et qui vont être reversées dans le régime d'accueil pour justement vous permettre d'obtenir une pension de vieillesse.
C'est valable, vous l'avez dit, dans tous les deux cas.
Dans les deux cas.
Alors, là, nous allons poursuivre avec la troisième question, qui est celle de M. Bivigou Ivala. Il est ancien retraité de la cimenterie de Ntoum. Il veut savoir si la décision revalorisation du chef de l'État a un impact sur le montant de la pension de manière générale.
De manière générale, la revalorisation n'a concerné que les pensions au plancher, donc celle qui était à 35 200, donc depuis le 1er juillet 2011, celle qui était à 35 200.
Parce qu'il y a des pensions qui sont en
dessous ? Non, c'est le plancher, 35 200. Donc celle qui était à 35 200.
On va dire les économiquement...
économiquement faibles. Donc celles qui étaient à 35 200 sont passées à 64 000 francs par mois. C'est une hausse à peu près de 55%. Mais c'était seulement aux personnes titulaires de la pension, pas à leurs ayants droit. Donc ça n'a marché que pour la personne, donc pour l'ouvrant droit.
Et c'est effectif depuis combien de temps?
Depuis l'année dernière, donc juillet 2011.
Là, les gens perçoivent régulièrement leur pension revalorisée.
Revalorisée.
Ils sont contents?
Un plus dans le revenu, ça fait toujours plaisir.
En plus. Bien. Alors, il y a madame, pour la suite hein, de nos questions, hein, madame Jeannette. Elle appelle depuis Mwanda. Hein. Elle est ménagère de maison. Elle voudrait savoir si à 55 ans ou 60 ans, elle aura droit à une pension retraite.
Maintenant, si la dame qui appelle de Mwanda aura droit à la retraite, ça dépendra justement de son employeur, comme on l'a dit tout à l'heure. Parce que chaque personne qui veut prétendre à une retraite de la CNSS doit avoir été déclarée chez nous, doit avoir été immatriculée, donc au bout de 20 ans. Malheureusement, c'est peut-être une catégorie de personnes qu'on n'a pas évoquées tout à l'heure, qui sont exposées peut-être à la location de vieillesse, c'est-à-dire que l'employeur ne fait pas les démarches nécessaires pour déclarer son personnel, surtout le personnel de maison. Donc, vous allez exercer chez différentes personnes, il n'y a peut-être qu'une seule personne sur les 7 ou les 8 qui prendra en compte une partie de votre carrière professionnelle. Et lorsque vous allez aller à la retraite, vous allez constater que malgré tous les certificats de travail qu'on a pu vous délivrer, votre employeur ne s'est jamais présenté à la CNSS. Et il n'y a qu'une toute petite partie qui est prise en compte.
Est-ce que c'est fait de manière délibérée ou bien c'est manque d'information de la part de ces employeurs?
Manque d'information, peut-être pas. Manière délibérée, peut-être pas aussi. Mais en fait, il s'agit, comme je le disais tout à l'heure, il s'agit en fait de se rapprocher des services de la CNSS. Si vous ne connaissez pas une disposition ou une autre, vous vous rapprochez des services de la CNSS et à ce moment-là, ils vous orienteront. Nous avons aussi un rôle de conseil. Donc que les usagers n'aient pas peur de se rapprocher de nous pour qu'on les conseille justement sur la meilleure conduite à avoir.
Alors, ça veut dire qu'un employé, par exemple, ceux de gens de maison, comme vous le dites, peut effectuer toute seule sa démarche pour pouvoir prétendre à une retraite, pension.
Bon, prétendre à une retraite, c'est en fait initier la demande. Mais sinon, comme je disais tout à l'heure, elle peut se rapprocher de nos services pour savoir s'il y a eu un suivi, en fait, dans le versement de ses cotisations de la part de son employeur.
Voilà, cette dernière question que nous allons prendre, celle de Monsieur Kombila, qui dit « J'ai commencé à travailler à l'âge de 18 ans et en avril 2014, je vais totaliser 30 années de travail et je compte prendre la retraite en ce moment, là, à l'âge de mes 48 ans. La question, qu'est-ce que vous me conseillez, vous, devais-je attendre 55 ans ou pas ?»
Bon. Le conseil que je lui donne, et de toute façon, il devrait être vérifié par nos services compétents, le conseil que je lui donne, c'est que, étant donné qu'il faut répondre à la condition des 120 mois d'assurance au cours des 20 dernières années, s'il arrête à 48 ans et qu'il lui reste 7 ans avant d'aller à la retraite, ça c'est de manière absolue, donc en fait, il a déjà totalisé sur les 20 dernières années 13 années d'activité validées. Donc, moi, je peux lui conseiller, bon, c'est à l'antenne, hein, il faudra toujours qu'il se rapproche, je peux lui conseiller, effectivement, de prendre sa retraite au sein de son entreprise et d'attendre, effectivement, d'avoir 55 ans. Maintenant, comment il va gérer les 7 années en attendant la retraite servie par la CNSS, bon, là, c'est lui qui verra.
Voilà, mesdames et messieurs, le temps qui nous est imparti touche à sa fin. Pour le reste des questions non abordées au cours de l'émission, pas de problème, vous aurez toutes les réponses hors antenne à travers vos numéros de téléphone. Alors, monsieur Mata, nous avons tenté de faire le tour de la question sur cette thématique. En tout cas, vous avez certainement quelques conseils que vous pouvez donner peut-être aux employés, aux employeurs, concernant justement cette question.
Oui, le conseil que je leur donnerais, c'est qu'ils n'hésitent surtout pas à se rapprocher de la CNSS, parce que ce sont des professionnels, ce sont des personnes qui connaissent leur métier, et c'est à eux de vous apporter des réponses. C'est pas à vous de les deviner. Parce que lorsque vous les devinez, on arrive souvent à des situations où vous êtes déçu, et puis vous faites un certain nombre de réclamations qui n'aboutiront peut-être pas. Donc, rapprochez-vous de nos services compétents, et vous donneront la bonne information.
Voilà. On dit tout de suite merci à notre invité, monsieur Mathéance Francis. Merci d'avoir répondu donc favorablement à notre invitation. On dit également merci à la technique Didier Makaya. Devant ce micro, Romuald Koumba. On se fixe donc rendez-vous pour la semaine prochaine.
Caisse nationale de sécurité sociale, notre ambition, mieux vous servir.